Ce matin, toujours dans cet esprit d'approfondir notre compréhension des mécanismes sur lesquels repose notre identité, j'aimerais commencer à débroussailler le terrain en ce qui concerne les émotions. Avec quoi on peut les relier? Comment peut-être on peut un petit peu travailler avec? Donc c'est vraiment c'est la suggestion du jour. Si vous sentez que c'est quelque chose qui semble approprié, qui est intéressant aujourd'hui, voilà, il y a vraiment cette invitation à porter un regard peut-être plus particulier dans cette direction. Et je sais que certains enseignants seront peut-être en désaccord avec ce qui va être dit ce matin, dans la mesure où une approche personnelle, hein, qui est vraiment basée sur ma modeste compréhension, c'est que, encore une fois, une émotion, c'est pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va traiter indépendamment. Et si on regarde dans le champ de notre expérience, une émotion, elle a une composante extrêmement physique. Elle a une composante aussi énergétique, mais elle a aussi, je trouve, une composante mentale. On pourra remarquer, et c'est vraiment une chose à peut-être aller regarder d'un peu plus près aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les pensées qui peuvent être en relation avec une émotion. Généralement, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qui va nourrir le flot de pensée, c'est simplement le fait de ne pas avoir reconnu, sous la lumière de la conscience, hein, l'émotion qui est en train d'être vécue. Et ça, c'est véritablement quelque chose, pour lequel il faut vraiment pas s'en vouloir. Parce que si on remplace, si on replace notre attitude vis-à-vis des émotions, on va s'apercevoir que finalement, dans le monde dans lequel on vit, les émotions sont généralement perçues comme une menace. Et véritablement de voir comment, en fait, depuis notre plus jeune âge, on a été formaté et conditionné de 100 000 manières, hein, à ne pas être simplement en contact avec une émotion. Simple exemple, les garçons, la plupart du temps, on va dire, il faut pas pleurer. Les petites filles ou les femmes, hein, pendant une époque, toute cette époque freudienne, dès que ça manifestait une colère, allez, boum, estampillé, hystérique. Et ça prend tout au long de l'histoire, ça a pris des formes incroyables. Donc, de ne pas s'étonner que d'une certaine manière, pour nous, hein, de s'engager avec ce territoire, ce champ émotionnel, ça peut être difficile. C'est ce qui va conditionner notre réponse quasiment automatique d'évitement. Hein? Combien de fois par jour on va mettre en place des stratégies pour simplement éviter de ressentir? Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est automatique. Parce que c'est quelque chose c'est véritablement quelque chose sur lequel c'est construite notre personnalité, pas notre personnalité, mais notre identité. Waouh! Si je ressens, comment je vais être jugée, hein, par mes parents? Si je ressens, qu'est-ce que je vais penser de moi-même? Si je ressens, est-ce qu'il y a cette possibilité, ouh, que je perde le contrôle sur moi-même, devant les autres. Donc vraiment de voir, je vous invite aujourd'hui, si vous souhaitez rentrer dans ce territoire-là, d'y aller vraiment avec beaucoup de douceur. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Il y a différentes façons, peut-être, d'appréhender l'émotion. Et de voir, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que voilà, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'une part, comme je viens de le dire, de voir comment, très souvent, on part dans une tentative d'évitement, hein, mais aussi de voir que est important aussi de se familiariser donc avec l'évitement et aussi peut-être avec les croyances que l'on a par rapport à l'émotion. Je vais donner un exemple. Comme je le disais tout à l'heure, on a grandi dans un monde où ressentir, c'est une menace, c'est quasiment quelque chose qu'on n'aurait pas le droit de faire. Et de voir en chacun de nous comment ça s'applique à nous. Peut-être ça ne s'applique pas à vous. Mais d'aller voir par vous-même comment ça peut s'appliquer, ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on va traiter les émotions, c'est qu'on va avoir aucun problème, par exemple, à identifier la colère. Hein, ça, généralement, quand ça chauffe, qu'on a envie d'hurler ou qu'on a envie d'être agressif en face de l'autre, c'est pas quelque chose, généralement, qui est difficile. Quoique pour certaines personnes, de ressentir, il y a vraiment une difficulté à aller au contact des émotions. Mais ce qui est intéressant pour nous, vous avez remarqué, c'est que on a beau vivre une émotion, on a beau la nommer, on a beau savoir que c'est une colère, c'est pas pour autant. Et en plus, on est un méditant et on se dit, oh, il faut que j'accepte, oh, il faut que je rencontre. Oui, alors c'est là, ça chauffe, oui, ça brûle, oui, j'ai envie d'hurler. Mais punaise, ça reste là. Ça vous parle? Et ce qui est intéressant là, c'est peut-être de voir que souvent, ce qui se passe dans ce territoire de l'émotion, c'est qu'il y a toujours un train qui en cache un autre. C'est que derrière cette émotion peut-être de colère que l'on reconnaît facilement en surface, il y a peut-être autre chose qui demande à être vue, reconnue, vécue, ressentie. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur cette habitude, et que je vous invite vraiment à aller interroger, c'est notre habitude d'éviter. Parce que derrière cette stratégie d'évitement, il y a peut-être, hein, cette croyance profondément enracinée que c'est pas bien de ressentir. Et ça peut simplement se manifester par de la peur. À prendre un exemple concret, vous êtes dans une situation dans votre vie affective ou professionnelle qui génère de l'inquiétude, qui a tendance à générer des pensées qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans mon futur proche? Comment je vais m'en sortir? Ma situation financière ou ma situation affective, je me sens seule, etc. Qu'est-ce que je vais devenir? Et de voir que là, hein, on est effectivement dans une boucle de pensée qui est en train de qu'est-ce qu'elle est en train d'exprimer, cette boucle de pensée? Elle est en train d'exprimer une peur de l'avenir, hein, un besoin de savoir où on va, un besoin d'être rassuré, un besoin de stabilité, un besoin de sécurité. Et c'est de voir, et peut-être, ça ne va pas être difficile de reconnaître qu'on est angoissé, qu'on est inquiet pour l'avenir, parce qu'on a de bonnes raisons de l'être, peut-être. Et encore une fois, on est au contact de cette inquiétude. Mais encore une fois, comme la colère, elle ne s'en va pas, cette inquiétude. Et elle continue à gérer cette boucle de pensée, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, on a le doute qui vient s'installer. Hein. Alors, je vais faire ça. Non, ça ne va pas. Il faut que je fasse ça. Voyez. Et on est en circuit fermé Hein, on est dans une boucle de pensée obsessionnelle. Là, qu'est-ce qui s'intensifie, hein? C'est notre identité qui devient extrêmement solide. On se retrouve dans ce monde des objets, dans ce monde mental, hein, et généralement, on souffre. Et tout l'intérêt pour nous, c'est d'aller voir le train qui se cache derrière la montagne. Hein, là. Et simplement de voir que peut-être, encore une fois, derrière cette peur de l'avenir, hein, cette peur existentielle qui a tout à fait sa place, il y a simplement la peur de ressentir. Il y a la peur d'aller rencontrer la peur. La peur, elle est identifiée. Ah, je suis inquiète, j'ai peur. Mais dans quelle mesure il y a cette réalisation qu'il y a peut-être simplement la peur d'aller plus profondément au contact de cette peur. Et là, ce qu'on commence à... Hein, c'est un peu comme l'oignon qu'on épluche, on commence à aller au contact de la couche en dessous, la couche inférieure. Et c'est vraiment, moi je vous invite aujourd'hui à aller voir comment ça s'applique à vous. Quand vous vous retrouvez dans une émotion, vous sentez, alors il y a des émotions qui vont être très légères, hein, qui vont, avec lesquelles on va avoir aucun problème à naviguer, simplement en étant avec, en étant ouvert, ressentant la sensation, éventuellement voir le type de pensée que ça génère, et puis au bout d'un moment ça va passer tout seul. Et puis pour d'autres, hein, si vous sentez que ça part pas, moi je vous invite à travailler de deux manières. C'est soit vous pouvez travailler au niveau physique, niveau énergétique, soit vous pouvez travailler au niveau mental. Au niveau mental, c'est peut-être de vous intéresser, hein, au contenu des pensées qu'il y a. Sans chercher à comprendre vraiment ce qu'elles racontent, mais juste écouter, je ne sais pas si quand, ça c'est à chacun, à chacune de voir, quand vous avez une pensée, vous prenez conscience d'une pensée, comment est la pensée dans votre tête? Est-ce qu'elle se manifeste plutôt sous forme d'image ou alors est-ce que c'est plutôt une petite voix? Donc ça, c'est peut-être la première chose à identifier. Et simplement d'amener de la curiosité là. Qu'est-ce que c'est en train de raconter? Ou quelles images ça projette là sur l'écran de cinéma? Et pas de tenter de comprendre et d'essayer de sortir de la situation dans laquelle on est. Mais simplement d'être, si possible, en retrait, de regarder, et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va être clair, ce que sont en train de raconter ces pensées-là. Il va y avoir un dénominateur commun. Sur le plan physique, on peut simplement travailler en étant avec l'attention. Pardon, j'ai oublié quelque chose par rapport aux pensées. Ce que l'on peut aussi noter dans ces moments-là, c'est de voir comment ces pensées-là ont tendance à accentuer cette sensation que je suis là, moi je. Et véritablement de voir, après, si vous voulez descendre dans la sensation corporelle, de voir comment ça... Hein, vous vous ressentez là-dedans. Est-ce que ça amène de la tension physique? Est-ce qu'il y a de la tension physique à ce moment-là? Si vous sentez que vous êtes relativement assez stable, malgré une émotion perturbatrice, hein, est-ce qu'il est possible simplement, oui, je la sens, etc., je reste avec, mais véritablement de voir si je ne cherche pas d'une manière peut-être un peu subtile, à trouver une issue. Jusqu'où on s'ouvre, jusqu'où on est avec. Est-ce qu'on est capable de descendre dans la sensation d'une émotion, hein, comme cette histoire d'intimité entre la fleur et la conscience auditive? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a suffisamment de stabilité pour aller rencontrer une émotion, hein, de manière beaucoup plus énergétique dans le corps? C'est-à-dire, peut-être de voir si on peut laisser tomber le concept. Ah, je suis en colère. Ah, j'ai peur. Ah, ça, c'est de l'inquiétude. Ah, ça, c'est de la projection dans le futur. Ah, là, je ressasse. Ah, ça, c'est la honte. Ah, ça, c'est la culpabilité. Ah, ça, c'est le doute. Hein? Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il y a suffisamment de stabilité pour descendre un peu plus profondément dans la sensation, lâcher le concept et s'intéresser simplement à la manifestation énergétique d'une émotion, qui finalement, à ce niveau-là, cesse presque d'être une émotion. En tout cas, ça ne sert à rien de l'appeler émotion, simplement de la ressentir. Et là, comme on est toutes et tous différents, de voir si on va là-dedans, de voir qu'est-ce qui peut nous aider, nous soutenir. Hein. On le sait, une émotion, tant qu'elle n'est pas vécue, reconnue, relâchée, elle va être perturbatrice, elle va nous ennuyer. Donc on peut faire ce travail et puis après chacun chacune en fonction de ses propres besoins d'aller marcher, d'aller appeler un, je sais pas, de parler avec un ami, une amie, d'aller courir, d'aller taper dans un coussin, peu importe, d'aller faire un cours de kung-fu, je sais pas, mais de voir comment une fois que cette charge, parce que en fait quand on parle d'émotions perturbatrices, on a tendance à parler de charge énergétique aussi. De voir, une fois que ça s'est reconnu, est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir simplement la faire sortir? Possiblement sans agresser l'autre si on est en colère, ce qui n'est pas toujours évident. De voir si on peut essayer de faire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'aller au contact d'une sensation énergétique. Moi, quand j'utilise le terme énergétique, ce que je veux dire, c'est... Vous avez vu, même quand on plonge dans une sensation, hein, on va dire, ah, ça chatouille. Il y a quand même, est-ce qu'il n'y a pas toujours un résidu de mentalisation là-dedans, hein? Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette tendance quand même à identifier ce qui se passe, même quand on plonge dans la sensation. Hein? C'est chaud, c'est froid, ça me coupe la respiration. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une touche, hein, de commentaire? C'est pour ça que moi j'aime bien cette idée de rencontrer l'émotion et tout autant d'y voir sa composante un peu mentale aussi, pas uniquement physique. Et de voir, de voir s'il y a ça. Et une fois que c'est reconnu, probablement que ça va lâcher et ça va nous permettre de rentrer vraiment dans une sensation beaucoup plus énergétique. Et comme cet exemple avec la fleur hier, qu'est-ce qui se passe quand une sensation est rencontrée sans concept? Et ça va, cet exercice-là, ces deux exercices-là, hein, vont véritablement nous aider. Déjà à mieux comprendre sur quoi repose notre identité, comment elle a tendance à se solidifier, à se rigidifier quand les émotions sont là, mais aussi de voir, avec ces exercices-là, de voir comment ça va pouvoir nous donner de la latitude, ça va générer une capacité, une possibilité de malgré tout respirer, hein, dans cette manifestation physique, mentale. On peut pas contrôler. Et j'en reviens, je donne cet exemple, mais pour moi c'est vraiment parlant parce que donc je vous ai dit il y a quelques jours j'étais en montagne et j'ai percuté un chevreuil en voiture et émotionnellement ça a été traumatisant. Traumatisant à tel point que pendant 3 jours j'avais une charge énergétique dans le corps, il y avait une agitation et j'étais dans une, avec toute la bonne volonté du monde, toutes les centaines d'heures sur le coussin, c'était là. Et pendant 3 jours, c'était les images en boucle du dernier regard de la biche, enfin du chevreuil qui part en l'air, qui convulse sur le bord de la route. C'était très intense, très très intense. Et de voir comment, en fait, comment la plupart du temps on va résister à ça? d'une manière ou d'une autre, on va résister à ça. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, ce type d'émotions-là que moi je ressentais, elles sont désagréables. Mais en plus, il y a eu cette possibilité à un moment donné de voir véritablement la croyance que je ne pouvais pas ressentir ça. Je n'avais pas la capacité de ressentir ça. Vous savez, la première émotion, vraiment ça a été de la tristesse, mais très vite, il y a eu un sentiment de culpabilité énorme. Mon Dieu, moi, j'ai ôté la vie, moi. Et le fait que c'était, je veux dire, les conditions ont fait que ça pouvait pas se passer autrement, j'aurais jamais pu l'éviter. J'avais pas de visibilité, j'allais pas vite, mais de vraiment voir qu'en fait, ce qui dérangeait le plus, c'était cette croyance sous-jacente à l'émotion de culpabilité qui était là, hein, évidemment, parce que forcément elle se forme, parce qu'il y a cette identité du moi-je qui pense qu'il est au centre des choses et qu'il est responsable en fait d'avoir tapé la biche. Mais ça, c'est qu'une croyance très égocentrée. Hein. Ça implique pas, ça n'inclut pas l'histoire de la biche. Ça n'inclut pas les conditions de la route où j'étais en haut d'une côte et en redescendant, j'avais aucune visibilité, la biche était là. Ça n'inclut pas dans cette sensation émotionnelle de culpabilité. Donc, véritablement de voir que quand on est pris dans une émotion forte, on perd sa capacité de discernement, on perd sa capacité de prendre de la hauteur sur les choses et simplement de se rappeler à ce moment-là, juste ça, hein, que les choses ne sont peut-être pas telles que ma tête hein, est en train de me la raconter. Et pour moi, je vous assure, ce qui a été intéressant au bout de 3 jours, c'est véritablement de voir, en fait, cette croyance que je n'étais pas capable de ressentir cette culpabilité. C'était pas possible, c'était trop. Vous savez, quand ça pique, quand ça brûle, ou. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, quoi. Mais de voir, de voir est-ce qu'on peut avoir suffisamment confiance en ce qu'on fait là, en ce qu'on cultive là, hein, suffisamment confiance en soi aussi, suffisamment confiance en la vie, que c'est possible d'aller toucher ces choses du doigt. Ça demande de la patience, bien sûr, ça demande de l'ancrage, ça demande de la confiance. Ça demande aussi, je n'aime pas utiliser ce terme, mais ça demande du lâcher prise. Et ça vient avec la confiance. Si on a confiance, pendant 3 jours, je ne pouvais rien faire. C'était en boucle. Physiquement, le mal-être, mentalement, c'était en boucle. Et je voyais d'une manière ou d'une autre comment j'essayais de me fixer, de fixer le problème pour ne pas avoir à ressentir ce qui se cachait derrière ce sentiment de culpabilité. Il y avait plein d'autres émotions, hein, mais il y avait celle-ci qui était vraiment très très forte. Donc ça c'est vraiment quelque chose, moi ce matin je voudrais vous inviter à faire, enfin toute la journée, c'est de voir si vous êtes au contact d'une émotion, de voir si vous pouvez vous approcher. Et encore une fois, on ne va pas au casse-pipe, comme on dit chez moi. C'est vraiment d'être à même de faire en fonction des conditions du moment, hein. D'accepter qu'il y a des émotions qui sont intenses, qui nous submergent. De quoi j'ai besoin à ce moment-là pour garder l'équilibre, parce que je me rends bien compte que je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit. Est-ce que j'ai besoin de cultiver plus de bienveillance? Est-ce que j'ai besoin de cultiver la patience? Est-ce que j'ai besoin de cultiver la confiance? Est-ce que j'ai besoin de me rassurer dans ces moments-là en revenant à ici, maintenant, hein? Pour pouvoir me sentir en sécurité. Parce que le problème, quand il y a une émotion qui est intense, hein, on se sent, ce que je disais, on se sent menacé. on se sent en danger. Et ça demande véritablement notre attention, ça demande d'être perçu. S'arrêter là pour ce matin. Et puis c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en pratique maintenant dans une méditation guidée. Alors bien entendu, hein, ce n'est qu'une suggestion, ce n'est qu'une invitation. Si ça ne vous parle pas, si ça ne semble pas approprié aujourd'hui de s'engager sur ce territoire-là, je vous invite vraiment à suivre votre boussole intérieure. Celle-ci, elle saura toujours quoi faire. Peut-être dans un premier temps, simplement de voir si on peut trouver une certaine forme de confort dans la posture, une assise, une posture qui incarne une certaine forme d'intégrité. Et une certaine manière dans la posture j'exprime mon droit d'être là. Et d'inviter la conscience à se déposer sur l'ancrage qui convient le mieux ce matin, maintenant. de voir s'il est possible de contacter une situation. Qui a généré une émotion. On n'a pas besoin de prendre un événement traumatique extrêmement perturbant. Une légère coloration émotionnelle suffira amplement. Et comme je le disais, on appréhende ce territoire avec un grand sens du soin. Ça peut être une contrariété dans une discussion. Ça peut être la peur de l'avenir. Peut-être une tristesse due à la perte, peut-être d'un être ou de quelque chose. Attention à ce que ça ne génère pas trop d'émotions fortes. Apprenons à travailler avec des petites choses légères afin de pouvoir approfondir avec plus de sérénité. C'est ce qui nous aidera plus tard lorsqu'on se familiarise avec des choses plus difficiles. Si vous sentez que cette situation génère une quelconque forme d'émotion, voir si déjà au contact de cette émotion, cela a tendance à agrandir, exagérer cette sensation que vous êtes là, que je suis là. Et quand je ressens une émotion comme la colère, est-ce que ça intensifie cette expérience de moi-je. Est-ce que cette émotion est accompagnée d'une certaine forme de tension corporelle, de contraction? De rétrécissement peut-être aussi. Est-ce que cette émotion a tendance à accentuer le sentiment de séparation dont on parlait hier? D'isolement? Si vous sentez que ça vous désarçonne, de simplement revenir sur votre objet d'ancrage, que ce soit le souffle, l'écoute, pour retrouver un équilibre, peut-être revenir dans cette situation un peu plus tard. Vraiment, soyez créatif, soyez créative. Y a-t-il des pensées qui accompagnent cette coloration émotionnelle? Est-il un dialogue intérieur, des images, des couleurs plus prominentes? Des mots qui résonnent plus que d'autres? Est-ce que le discours intérieur, le narratif dans notre tête nous plonge dans une relation duelle avec le conflit qui est en nous? C'est-à-dire, est-ce que les pensées sont en train de justifier ce que je ressens? Je suis en colère parce qu'il m'a dit ci, il m'a fait ça, c'est pas normal, il a tort, j'ai raison. Est-ce que les pensées viennent confirmer, accentuer ce sentiment de division, de discrimination, de séparation? Est-ce que cette justification qui fait rage dans ma tête ne permet pas simplement d'éviter de ressentir? Pourquoi ai-je tant besoin de justifier ce qui se passe? Est-ce que ces pensées n'expriment pas de la résistance? Est-ce que les tensions dans mon corps n'expriment pas de la résistance? Est-ce que je me donne le droit de vivre ce qui est présent, au-delà de ce que je peux en penser? Que je me laisse le droit d'avoir peur, d'avoir honte. D'être en colère. D'être triste. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort. Il s'agit de voir si on peut approcher, se familiariser avec ce qui est présent, sans jugement. Et de voir que si ça résiste, si ça juge, ce n'est pas un problème, à partir du moment où c'est reconnu. Les émotions, tout comme les pensées, ne sont pas des problèmes à régler, des choses à fixer. Je n'ai pas besoin d'être fixée. Je ne suis pas un problème lorsque je ressens une émotion. Est-ce que j'appréhende une émotion comme étant personnelle? Moi séparé du reste? Ou alors est-ce que cette émotion est perçue comme une expression, une manifestation de la vie, ici, maintenant, à cause de certaines conditions? Pour choisir de rester dans cet espace-là, ou alors de simplement revenir sur votre ancrage. Dans la réalité qu'ici, maintenant, tout va bien. Je suis à l'abri, bien entouré, au chaud. Que je ne suis menacée en rien du tout. Mais donc, si vous choisissez de travailler un petit peu avec ça aujourd'hui, faites attention à l'attitude avec laquelle vous vous engagez là-dedans. Est-ce qu'il y a une tentative d'essayer de résoudre quelque chose, de fixer quelque chose de soi? Ou alors est-ce qu'au contraire, il y a simplement de la curiosité, une curiosité bienveillante, vraiment de faire attention.